Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وذق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 14 mai 1401 du calendrier iranien, 6 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. L'Iran met en garde l'Union européenne contre les mesures politicatives pour enhardir les émeutiers et les terroristes. Les récentes émeutes nous ont fait faire la distinction entre amis et ennemis, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Si l'Union européenne prend des mesures politiques hâtives pour inciter les émeutiers, l'Iran réagira en conséquence, a déclaré Hossein Amir Abdullahian. Et l'Iran appelle les États riverains de la Caspienne à créer un comité de coopération pétrogazière. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que le comportement intrusif et le soutien flagrant de certains gouvernements occidentaux aux récentes émeutes ont fait que le peuple iranien fait la distinction entre ses amis et ses ennemis. Kanani a écrit sur Instagram « Protestation et émeute sont deux choses différentes dans leur nature et leurs conséquences. Le comportement intrusif et le soutien flagrant de certains gouvernements occidentaux aux récentes émeutes en Iran et la poursuite de leur comportement ont prouvé que chaque fois qu'ils voyaient une opportunité, ils n'hésitaient pas à prendre des mesures directes ou indirecte, contre la stabilité et la sécurité de la République islamique d'Iran, a noté le diplomate iranien. Selon lui, à la lumière de l'évolution de la situation et des vicissitudes de l'époque, le gouvernement et le peuple iranien connaissent mieux leurs amis et leurs ennemis. Il a ajouté que les ennemis n'étaient pas seulement contre la République islamique, mais ils sont contre l'Iran. La République islamique d'Iran a publié une vidéo de deux espions français arrêtés il y a environ 4 mois, dans laquelle ils ont admis leur tentative visant à inciter au chaos et aux troubles dans le pays. L'un des espions a reconnu être un agent de l'Agence française de renseignement extérieur, connu sous le nom de Direction générale de la sécurité extérieure. Elle poursuit en expliquant comment ils ont apporté d'importantes sommes d'argent pour financer des troubles et des manifestations, ainsi que pour acheter des armes dans le but de semer le chaos. Elle déclare également que leur objectif principal était de préparer le terrain à des troubles de masse et de déclencher une soi-disant révolution en Iran. Le ministère iranien du renseignement a annoncé leur arrestation fin mai, déclarant qu'ils étaient entrés dans le pays dans le but de détourner des rassemblements pacifiques et de les faire dégénérer pour semer le désordre social. Téhéran a mis en garde contre toute décision de l'Union européenne qui provoquerait les émeutiers en Iran. Lors d'une conversation téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a déclaré que si l'Union européenne prend une mesure politique hâtive basée sur des allégations sans fondement en lieu avec l'incitation à des émeutiers et à des terroristes qui ont pris pour cible la vie et les biens du peuple iranien, nous donnerons une réponse réciproque. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. L'Iran appelle les États riverains de la mer Caspienne à créer un comité de coopération pétrolière et gazière. Le premier vice-président iranien, Mohammad Mohber, a abordé la proposition lors de la deuxième réunion du Forum économique de la mer Caspienne à Moscou. Le responsable iranien a déclaré que la mer Caspienne est un patrimoine commun et une plaque tournante de connexion entre les États riverains. Il a indiqué que les pays riverains de la mer Caspienne devraient étendre leur coopération dans divers domaines. Le forum, initié en 2018, est censé servir de plateforme pour discuter de la coopération économique, des transports et de la sécurité dans la région. Des représentants de la Russie, du Turkménistan, du Kazakhstan, de la République d'Azerbaïdjan et de l'Iran ont assisté à l'événement. Le ministre du pétrole de la République islamique d'Iran, s'exprimant d'autre part en marge du deuxième forum économique de la mer Caspienne, a déclaré que le transit et l'échange de pétrole et de gaz en provenance de Russie feront de l'Iran la plaque tournante de la région en termes d'énergie. Notre pays recevra ainsi beaucoup de revenus en devises étrangères, a-t-il déclaré. La Corée du Sud et le Japon affirment que le Nord a tiré deux missiles balistiques à courte portée dans un contexte d'escalade des tensions dans la péninsule coréenne. Selon l'armée sud-coréenne, les missiles ont été tirés de Pyongyang vers la côte est du pays et en direction du Japon. Il s'agit du sixième lancement de missiles nord-coréens en 12 jours et le premier depuis qu'il a tiré un missile à portée intermédiaire au-dessus du Japon. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré jeudi que les récents lancements de missiles étaient des mesures de contre-action contre les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud. Pyongyang considère ces mouvements comme des répétitions pour une invasion. Il accuse les États-Unis et ses alliés régionaux de la menacer de jeux de guerre et de renforcement militaire. Les tensions sont vives dans la péninsule coréenne alors que Pyongyang a effectué une série d'essais de missiles cette année. Récemment, le président sud-coréen, nouvellement élu, a mis en garde contre tout comportement provocateur de la part de la Corée du Nord. Et enfin, le haut fonctionnaire américain John Bolton a publié un article dans lequel il appelle à l'organisation d'un coup d'État en Russie, scénario pour lequel il fait valoir la plus-value du d'un interventionnisme assumé par Washington. Poutine doit partir. Voilà qui, dès le titre, annonce la couleur d'une tribune signée le 5 octobre par John Bolton, ancien haut responsable à la Maison-Blanche, qui appelle avec véhémence à un changement de régime en Russie. Régulièrement entouré dans les hautes sphères d'influence de la politique étrangère américaine, en prévision d'un renversement de pouvoir, la formule est toute naturelle dans la bouche d'un haut fonctionnaire qui, pas plus tard qu'au mois de juillet dernier, revendiquait sa contribution active à la planification de coups d'État de part et d'autre de la planète. Alors que le conflit militaire russo-ukrainien est engagé dans son 8e mois, John Bolton est formel. Les perspectives de négociation sont à écarter, tout comme celles d'une potentielle future normalisation des relations avec le régime de Poutine, a-t-il écrit. Notons qu'un tel discours fait écho aux propos tenus par la présidente de la Commission européenne lors de son récent déplacement outre-Atlantique. Elle y avait notamment pris position contre les appels au cessez-le-feu dans le cadre du conflit, justifiant sa position en faisant valoir des enjeux dépassant la seule cause ukrainienne. Pour le haut responsable américain, il n'existe donc qu'une seule condition pour envisager la fin du calvaire qui traverse les populations touchées par le conflit. Le départ de Vladimir Poutine, selon lui. Et pour ce faire, l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis ne tarit pas de conseils. Puisque nous sommes déjà accusés de subvenir le Kremlin, pourquoi ne pas lui donner le change ? S'interroge ainsi celui pour qui les obstacles et les incertitudes qui bloquent le changement du régime russe sont importants. L'Iran a mis en garde l'Union européenne contre des actions politiques hâtives après que le bloc européen a menacé de prendre des mesures restrictives contre Téhéran à la suite des récentes émeutes survenues depuis l'étranger. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré « Si l'Union européenne cherche à prendre des mesures politiques irréfléchie et hâtive, sur la base d'accusations sans fondement et afin d'encourager les émeutiers et les terroristes qui ont pris pour cible la vie et les biens du peuple iranien, elle devrait savoir que nous prendrions des mesures réciproques. » Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Joseph Borrell. Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes iraniennes après la mort d'une jeune femme à l'hôpital après avoir été emmenée par la police. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer la cause exacte de la mort de Mahsa Amini. Hossein Amir Abdollahian a fait la distinction entre le peuple qui poursuivraient pacifiquement ses revendications et les anarchistes qui incendiaient des propriétés publiques, des ambulances, des banques et des lieux publics, attaquaient le peuple et les forces de l'ordre avec des armes à feu et des armes blanches ou recouraient à actions terroristes. Nous engagerons des poursuites judiciaires décisives contre les émeutiers et les terroristes, conformément à la loi, a affirmé le ministre iranien des Affaires étrangères. Ces remarques sont intervenues après que Josep Borrell a averti que l'Union européenne examinerait toutes les options à sa disposition après la mort de Mahsa Amini et a accusé les forces de sécurité iraniennes de réprimer les manifestants. Hossein Amir Abdollahian, quant à lui, a affirmé que le pays poursuivrait sérieusement le cas de la jeune femme iranienne conformément aux lois nationales de la République islamique d'Iran. La question est l'une des priorités de l'appareil judiciaire iranien, a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités médico-légales fourniraient bientôt un rapport technique et approfondi sur l'affaire. Josep Borrell, pour sa part, a reconnu qu'il y avait une différence entre les émeutes, le terrorisme et les manifestations pacifiques. Il a déclaré « Nous ne voulons pas que les relations de l'Union européenne avec la République islamique d'Iran se dégradent ». Les deux responsables ont également discuté de la question des négociations en cours visant à la levée des sanctions des États-Unis contre la République islamique d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères a qualifié de progressistes les récents pourparlers tenus à New York et à Vienne concernant la question des sanctions et la relance de l'accord nucléaire de 2015 avec les grandes puissances du monde. Josep Borrell s'est également déclaré satisfait de l'avancement des pourparlers, soulignant la nécessité de poursuivre les efforts en vue de parvenir à un accord final. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu au téléphone mercredi 5 octobre avec son homologue italien Luigi Di Maio. Nous sommes mécontents des positions et de l'ingérence de certains responsables européens concernant les incidents récents survenus en Iran, a affirmé le chef de la diplomatie iranienne, faisant référence aux remarques indiscrètes de certains responsables de l'Union européenne sur les récents développements dans le pays. Si l'Union européenne cherche à adopter une mesure hâtive et irréfléchie par un comportement à deux poids deux mesures, elle devrait attendre l'action efficace et réciproque de la République islamique d'Iran, a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Avec sa croyance pratique en la démocratie, la République islamique d'Iran a toujours prêté attention aux demandes pacifiques du peuple, a déclaré Amir Abdollahian. Pour sa part, le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré que l'Italie respectait la souveraineté et les lois de la République islamique d'Iran, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'Iran. L'Italie estime également qu'une réponse aux revendications pacifiques est différente de celle aux émeutes et au terrorisme, a-t-il empressé d'ajouter. La République islamique d'Iran a fustigé le rôle des pays étrangers dans l'orchestration des émeutes meurtrières en Iran. Dimanche, le ministère iranien du renseignement a déclaré avoir arrêté 9 ressortissants étrangers d'Allemagne, de Pologne, d'Italie, de France, des Pays-Bas et de Suède, entre autres, pour leur implication dans les émeutes meurtrières, ainsi que 256 membres de groupes terroristes anti-iraniens basés à l'étranger. Dans un discours prononcé lundi, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a critiqué les États-Unis, le régime israélien et leurs mercenaires. Il a déclaré « Je dis clairement que ces développements ont été planifiés par l'Amérique, le régime sioniste et leurs acolytes. Leur principal problème est un Iran fort et indépendant et le progrès du pays.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau ici à Téhéran. Aujourd'hui, le débat, un sujet, deux intervenants. Nous allons parler aujourd'hui de l'Algérie et de la situation géopolitique de l'Algérie à l'heure actuelle, notamment de ses dernières démarches. Si on regarde ces 12 derniers mois, l'Algérie a beaucoup évolué au niveau de sa politique internationale. Comme d'habitude, pour le débat, nous avons un petit reportage qui explique la vision voulue du débat et par la suite, nous allons accueillir nos deux invités. Tout de suite, le reportage.
Alors que tous les regards sont tournés vers le front ukrainien, en Méditerranée, l'actualité passe sous silence des tensions permanentes que subit l'Algérie depuis l'attaque de l'OTAN contre la Libye. Cette attaque illégitime et illégale a provoqué des bouleversements dans toute l'Afrique du Nord. Mais le pays qui en a le plus souffert, notamment en raison de son opposition politique permanente à l'Occident, directe ou indirecte, et de son amitié avec l'Iran et sans aucun doute l'Algérie. En effet, l'Algérie a vu ses frontières mises en danger à de nombreuses reprises, que ce soit à l'ouest, à l'est ou même au sud. Il n'est donc pas étonnant qu'après 10 ans de pression de toutes sortes, ce pays d'Afrique du Nord rêvant d'une union africaine forte et unie et choisie, comme de nombreux pays subsahariens, de trancher dans le vif, de sortir de l'ambiguïté et de définir clairement sa politique étrangère. Pour ce faire, il suffit de regarder les actions internationales de l'Algérie au cours des 12 derniers mois. On peut ainsi constater que l'Algérie souhaite entrer dans les BRICS, un souhait approuvé notamment par la Chine. Il y a aussi le fait que l'Algérie achète du matériel militaire et s'est réarmée notamment en drones russes. Il y a aussi le fait qu'Alger ait initié des actions pour rassembler les factions palestiniennes. En effet, le 5 juillet 2022, le président Tebboune a rencontré à Alger le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Une rencontre qualifiée d'historique qui a mis fin à plusieurs années de froid entre les deux hommes politiques. Rappelons également qu'en novembre, l'Algérie et la Russie organiseront l'ensemble des exercices militaires, tandis qu'au début du même mois se tiendra le 31e sommet de la Ligue arabe, un sommet qui ne s'est pas tenu depuis 13 ans. Le fait que le Maroc s'arme de plus en plus auprès de l'entité sioniste, alors que l'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne, est certainement l'une des raisons des dernières actions d'Alger.
Alors l'Algérie à l'heure actuelle, depuis en fait la mort de l'ancien président, depuis l'arrivée du président Tebboune, alors bien entendu ce n'est pas seulement lui qui prend les décisions de son gouvernement, mais il faut bien avouer les choses ont beaucoup changé depuis surtout ces 12 derniers mois. Nous accueillons donc d'abord nos invités, tout d'abord Monsieur Luc Michel, géopoliticien à Bruxelles. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous, à votre plateau et à vos collègues, monsieur Abroudi.
Est-ce que vous nous recevez?
Oui, oui.
Alors, notre deuxième invité, monsieur Imadedine Amrouni. Bonjour, monsieur Amrouni. Comment allez-vous? Alors, analyse politique, comment allez-vous? Bienvenue sur notre plateau.
Bonjour à vous et à votre cher invité de Bruxelles.
Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, le sujet c'est l'Algérie. Beaucoup de choses vont arriver dans un mois, en novembre, que ce soit début novembre ou au milieu de novembre, l'Algérie sera bien occupée. On peut voir également une stratégie internationale extrêmement différente. Enfin, on peut dire extrêmement différente parce que l'Algérie est sortie de son ambiguïté. C'est-à-dire qu'il avait une sorte d'ambiguïté internationale politique du fait de son approchement avec la Méditerranée, avec l'Europe, et du fait aussi qu'il n'était pas forcément clair, même par rapport à la situation palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous considérez que les 12 derniers mois de travail de l'Algérie montrent une fin de l'ambiguïté algérienne d'un point de vue de la politique internationale ?
L'Algérie, historiquement, c'est un pays qui est très important en Afrique, dans la Méditerranée et dans le monde arabe. Il faut rappeler que l'Algérie, d'abord, c'est la révolution algérienne, la révolution de 1,5 million de martyrs. Et cette révolution était la base de tous les mouvements révolutionnaires en Afrique et dans le monde arabe. Donc il y a une histoire algérienne basée sur la révolution populaire et sur l'armée populaire algérienne. Et donc l'histoire de l'Algérie, c'est une histoire d'affrontement avec le système colonial, c'est-à-dire la France, mais au-delà, pour bâtir l'État-nation algérien. Et donc, on a mis beaucoup de temps, presque un demi-siècle, pour voir l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie, elle est riche, riche en matières premières, en gaz, en pétrole, mais riche en histoire et riche aussi dans sa jeunesse algérienne qui a fait beaucoup de révolution et de réformation de la société, mais elle a subi 10 ans de guerre civile. Et donc ces 10 ans de guerre civile ont retardé l'émergence de l'Algérie. Aujourd'hui, avec le changement géopolitique au niveau international, l'importance de l'Algérie revient sur le plan énergétique, mais surtout sur le plan géopolitique. Et donc la nouvelle donne de l'Algérie, c'est être influente au niveau du continent africain, au niveau du monde arabe, mais surtout avec son importance énergétique au niveau des relations internationales entre la Russie, l'Europe et les États-Unis et la Chine, bien sûr.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, on va essayer d'avoir notre deuxième invité, Monsieur Luc Michalet-Til, de retour.
Mais je n'ai jamais bougé, madame.
Alors, le son ne vient toujours pas du côté de Monsieur Luc Michel. Alors, Monsieur Amrouni, beaucoup de gens, à l'heure actuelle, quand on regarde l'actualité internationale, parlent beaucoup du rapprochement de l'Algérie avec la résistance palestinienne, son envie d'être le médiateur, un rôle qui était souvent joué par la Turquie ou par l'Égypte. Qu'en pensez-vous, Monsieur Amrouni ?
C'est-à-dire que l'Algérie, elle était toujours au cœur de la cause palestinienne, même avant l'indépendance, et pendant la guerre de 48, après la guerre de 67 et la grande guerre de 73, qu'on va dans quelques jours, le 6 octobre 1973, les armées arabes, égyptiennes, syriennes, algériennes, marocaines, tunisiennes, irakiennes, a gagné cette guerre de 1973. Et donc l'Algérie, elle était au cœur de la lutte palestinienne. Elle a reçu des représentants de mouvements de la résistance palestinienne sur le territoire algérien. Elle a formé et armé la résistance palestinienne lorsqu'elle était au Liban. Et donc l'Algérie n'était jamais en dehors de la cause palestinienne. Par contre, le fait qu'il y a eu cette guerre civile, qu'il y a eu cette pression contre l'Algérie, on a vu l'absence de l'Algérie pendant à peu près une quinzaine d'années. Aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, elle met en axe central la cause palestinienne, ce qui a dérangé un peu les Égyptiens et un peu les Turcs. Mais la relation commerciale, politique entre l'Algérie et la Turquie, elle est excellente. Entre l'Égypte et l'Algérie, diplomatiquement, elle est bonne. Mais l'Algérie veut reprendre cette cause palestinienne parce qu'elle est au centre de toutes les problématiques de relations diplomatiques entre les pays arabes et surtout le changement tactique du Maroc qui a formalisé ses relations avec l'entité sioniste et s'est rapproché militairement et aussi politiquement de l'entité sioniste, ce qui a fait que l'Algérie aujourd'hui, elle met au centre de ses actions à l'extérieur la cause palestinienne et donc elle va être présente comme elle était dans les années 60, dans les années 70 et au début des années 80, l'Algérie revient dans l'affaire palestinienne, c'est-à-dire qu'elle va mettre tout son poids politique, mais aussi populaire, pour aider les Palestiniens à retrouver leur indépendance.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Je pense que la situation s'est améliorée. Bonjour, Monsieur Luc Michel. Non, la situation ne s'est pas améliorée. Alors, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que le moment opportun qu'a choisi l'Algérie d'inviter donc les représentants des deux plus gros partis de la résistance palestinienne a été bon tout d'abord lors de leur anniversaire de la révolution algérienne, c'est-à-dire leur indépendance plutôt, mais surtout, ça arrive à un moment de tension entre le Maroc, parce que le Maroc se réarme, pas chez les Américains, ou chez les Européens, mais se réarme chez les Israéliens, alors qu'il faut l'avouer, sur beaucoup de dossiers, l'Algérie est un point mort pour l'entité sioniste, puisqu'il l'empêche, par exemple, de participer aux Jeux de Méditerranée, ils empêchent également le gazoduc israélien, puisqu'on ne doit pas oublier le côté des territoires au niveau des eaux. Et l'Algérie est quand même un point mort pour l'entité sioniste. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de géopolitique? On n'oublie pas le fait qu'ils sont amis avec la Palestine, mais là, il y a également un enjeu qui est stratégique.
Bien sûr, c'est un enjeu stratégique qui est en cas de résistance face à l'État sioniste. Il faut rappeler que les pays de l'Afrique du Nord, ils sont éduqués sur la haine du sionisme. C'est-à-dire la Tunisie, les Libyens, les Algériens et même les Marocains et les Mauritaniens, si on les laisse les frontières par l'Égypte ou par ailleurs, toute cette population va venir libérer la Palestine, sans aucun doute. Donc on est éduqué sur la haine du sionisme. Et donc la force de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est qu'elle cherche à s'imposer en tant pas simplement que médiateur entre Palestiniens ou entre pays arabes. Au contraire, elle va se retrouver au cœur de l'aide et l'appui à la résistance palestinienne. C'est-à-dire ça, c'est un changement stratégique pour l'Algérie, mettre en place une résistance palestinienne plus rigoureuse, plus armée, plus entraînée, mettre les moyens diplomatiques pour aider le peuple palestinien à retrouver son territoire. Et donc l'Algérie a choisi ce positionnement qu'elle est contre le sionisme, c'est pas simplement politiquement, mais elle va œuvrer aussi militairement dans le renseignement et même. Donc c'est un changement important de la politique étrangère algérienne d'aujourd'hui.
Merci Monsieur Amrouni. Monsieur Luc Michel, bienvenue sur le plateau.
Oui, bonjour. Mais j'étais là, mais nous avions un problème technique.
En tout cas, nous, on sommes ravis de pouvoir vous entendre. Alors, nous parlions donc de l'Algérie. Vous avez vu le reportage, ou entendu le reportage. L'Algérie, ces 12 derniers mois, a fait un bond extrêmement différent de sa politique étrangère qu'on a pu connaître par la suite. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a connu un nouveau président, M. Tebboune, qui représente une sorte de groupe plutôt paramilitaire, puisque M. Tebboune sort de ce côté paramilitaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'Algérie d'aujourd'hui, notamment de son rapprochement avec la résistance aussi clairement, je veux bien dire, parce que bien entendu, la Palestine et l'Algérie ont toujours été amis, mais là, les choses ont quand même un petit peu changé. Qu'est-ce que vous pourriez dire, s'il vous plaît, monsieur?
La géopolitique a horreur du vide. Et depuis une dizaine d'années, c'était la Libye de Kadhafi qui était l'état géopolitique pivot de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et là, jamais rien n'a été détruit. Ensuite, ce rôle a été assumé par le Tchad de mon ami le maréchal Idriss Déby. Donc, il était aussi assassiné. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle assume son rôle de pivot géopolitique de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et elle renoue avec la grande politique algérienne des années 60. Elle renoue avec la politique d'alliance avec Moscou. Hier, elle était l'alliée principale de l'URSS. Elle est aujourd'hui l'alliée principale de la Russie, de Poutine. Elle est en Méditerranée occidentale, la principale opposition à l'OTAN et aux Américains. Il est en train de changer toute la géopolitique de l'Afrique du Nord. Le journal, l'hebdomadaire parisien Le Point, disait il y a quelques semaines que le Maghreb était dominé par une politique qu'il appelait « mauvaisée de Moscou » et qui est initiée par l'Algérie. On voit les conquêtes américaines du printemps arabe peu à peu s'en détourner. On se souvient que l'Algérie, c'était la cible initiale du printemps arabe, puisque le pays avait été attaqué dès décembre 2010 et que la maturité politique du peuple algérien, qui avait connu 10 ans de guerre civile, avait refusé l'aventure occidentale. avant qu'elle ne se déporte vers la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Mais également, aujourd'hui, il y a ce rôle de l'Algérie vis-à-vis des Palestiniens. Et même vis-à-vis du Maroc, les choses sont en train de changer. Puisqu'on a vu il y a quelques mois que le Maroc...
On vient de perdre M. Luc Michel. M. Luc Michel, bienvenue de retour donc sur notre plateau. Alors ma question était sur le fait que depuis ces dernières années, en fait, on parle beaucoup des tensions entre Taïwan et l'Ukraine, mais on ne parle pas assez des tensions qu'ont connues l'Algérie du côté est, ouest, mais également du sud avec le Sahel, les investissements militaires que l'Algérie a fait ces 10 dernières années qui lui permet aujourd'hui donc de jouer un rôle beaucoup plus fort en Méditerranée.
Écoutez, c'est la principale armée d'Afrique du Nord et c'est l'allié principal de la Russie dans le contrôle de la Méditerranée occidentale. On parle même d'un rétablissement de l'ancienne base soviétique pour la marine russe d'aujourd'hui à Mersel-Guébir. L'Algérie, évidemment, c'est un des fronts de la lutte des peuples contre l'impérialisme américain. Vous avez raison de citer l'Ukraine. Puisque l'Ukraine a une influence directe en Méditerranée, c'est la diagonale entre Sébastopol et Tartous qui contrôlent la Méditerranée orientale, et l'Algérie et la Russie contrôlent, eux, la Méditerranée occidentale. L'Amérique qui frappe évidemment en mer de Chine et qui frappe la Russie en mer Noire, également les peuples africains, principalement en Afrique centrale et dans le golfe de Guinée. Il y a une volonté globale de l'Amérique de rester la superpuissance dominante. C'est ce que l'Algérie refuse.
Il ne faut pas oublier aussi que l'un des principaux opposants au gazoduc israélien d'un point de vue étatique, c'est-à-dire d'un point de vue des États, c'est l'Algérie. En autre que le Hezbollah, je ne parle pas de la résistance, mais l'un des pays qui s'oppose directement au gazoduc israélien, c'est l'Algérie à l'heure actuelle.
Oui, mais écoutez, c'est normal puisque... L'Algérie est un puissant État pétrogazier et elle est unie à la Russie, à l'Iran, à la Guinée équatoriale et au Sénégal dans ce qu'on appelle l'Association des États producteurs de pétrole, qu'on appelle vulgairement l'OPEP du gaz. L'Algérie est donc consciente des enjeux énergétiques, de la guerre du gaz et de la guerre du pétrole. Et évidemment, elle s'oppose aux projets occidentaux et sionistes dans ce domaine.
À ceux qui diraient que le sommet qui va avoir lieu le 1er novembre 2022, donc la Ligue arabe, qui voudrait dire que l'Algérie souhaite se racheter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces propos tenus concernant le fait que c'est Alger qui reçoit la Ligue arabe ?
Écoutez, je ne pense pas que c'est un rachat. L'Algérie a vécu une mauvaise période qui était due à une direction chancelante et elle est également due à une triste période qui est due à ce qu'on a appelé le printemps arabe et le printemps africain en 2011 et 2000. Aujourd'hui, elle est reprise en main par une direction forte qui est en alliance avec ses forces de sécurité. Il est donc normal qu'elle renoue avec la grande politique africaine de l'Algérie qui était celle du temps de l'OUA d'Alger dans les années 1960-1970.
Merci Monsieur Luc Michel. Un dernier mot peut-être concernant donc le fait que vers quoi va aller donc l'Algérie dans le futur ? Va-t-elle réussir à rallier la résistance, c'est-à-dire à enlever les discordances qui entre les plus deux gros partis de la résistance palestinienne ? Est-ce que vous pensez que son coup de pression méditerranéen va être de plus en plus forte ?
Moi je pense que, mais vous savez que la désunion, ce que j'appelle les frères ennemis de la résistance palestinienne, elle a été encouragée par les Israéliens. Il est donc normal que ceux-ci renoncent à cette politique qui est suicidaire. C'est de l'union du Hamas et de la vieille résistance palestinienne que naîtra évidemment l'indépendance du peuple palestinien. Dans cette disposition, Alger évidemment joue un rôle central. Elle le jouait déjà, je le rappelle, donc au début des années 60. Il faut constater aussi que l'axe de la résistance est sens et qu'il est capable aujourd'hui de rivaliser, de mettre en échec l'impérialisme israélien, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou encore au Liban.
Merci beaucoup, Monsieur Luc Michel, pour votre participation aujourd'hui à notre débat. C'est sur ces mots que nous finissons donc le programme débat qui se passe dans les studios de Presse TV à Téhéran. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet.
Voix de l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 22e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Tant que la douleur est supportable, essaie de faire avec. Cette maxime de la voix de l'éloquence du vénéré imam Ali béni soit-il souligne l'importance de la patience et de l'endurance. Une certaine réalité à laquelle nous sommes tous confrontés est que la vie est pleine de hauts et de bas. À peine avons-nous fini de relever un défi que nous nous retrouvons face à un autre. Peu importe si nous sommes ou ce que nous faisons. Dieu le Très-Haut nous dit clairement, dans le verset 4 de la sourate 90, qu'il y aura toujours des difficultés dans la vie des êtres humains. Ce verset dit « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de combat. » Qu'il s'agisse de détresse émotionnelle, physique, psychologique ou spirituelle, nous avons été créés pour faire face à de telles épreuves pour nous pousser à devenir des êtres humains plus forts et meilleurs. Dans cette maxime, le vénéré imam Ali béni soit-il dit « Tant que la douleur est supportable, essaie de faire avec ». Rappelons que dans un autre sagesse de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il a dit « Le monde est une maison entourée d'épreuves ». Nous le constatons plus que jamais alors que nous sommes confrontés à des défis sans précédent à l'échelle mondiale. La réalité de notre situation actuelle n'a pas besoin d'être triste ou déprimante. Au contraire, l'accepter et comprendre que ce qu'on attend de nous peut nous aider à surmonter la détresse que nous pourrions ressentir. Une difficulté est un défi et demande des efforts pour la surmonter. Mais elle peut être surmontée avec le bon état d'esprit et avec la bonne aide. Il y a certaines choses à garder à l'esprit afin que la difficulté soit plus acceptable. Premièrement, comprendre que nous ne sommes pas les seuls à faire face à des défis ou à souffrir. Tout le monde est testé sous une forme ou une autre, que la réalisation du test soit là ou non. Savoir que nous ne sommes pas seuls nous apporte une certaine forme de réconfort. Deuxièmement, savoir que Dieu a promis de ne pas nous charger de ce que nous ne pouvons pas gérer. Le noble Coran dit « Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Le Seigneur connaît notre potentiel, qui doit être mis en valeur. Dieu ne nous mettrait pas dans une situation insurmontable. Parfois, nous ne sommes pas conscients du potentiel caché en nous et nous nous irritons donc des défis auxquels nous sommes confrontés. Troisièmement, Dieu est infiniment miséricordieux. Il ne nous laisserait pas sans nous fournir des outils nécessaires pour surmonter les difficultés de la vie. En d'autres termes, Dieu nous a donné des outils physiques et spirituels pour faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ne laissons pas nos luttes quotidiennes nous abattre. Cherchons l'aide de Dieu pour y faire face et cherchons les ressources que nous pourrions utiliser. Il est important de comprendre qu'une aide est disponible sous forme d'inspiration spirituelle, de soutien émotionnel de la part des amis et de la famille et de l'aide professionnelle si nécessaire. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Une personne intelligente s'appuie sur la sagesse des autres personnes pour ajouter à la sienne. Rappelons-nous de ce verset du Coran pour accepter la réalité fondamentale de la lutte dans ce monde. Permettons-lui de nous donner un sentiment d'humilité et de la force pour affronter la vie. L'imam Ali, béni soit-il, dit dans le sermon 192 de la voix de l'éloquence, qui traite de la vanité de Satan et de la façon dont la maladie peut affecter tout le monde. Mais Dieu, le glorifié, éprouve ses créatures par ces choses-là, dont elles ne connaissent pas la vraie nature, afin de les distinguer par le biais de telles épreuves, d'écarter d'elles l'orgueil et de les tenir à l'écart de la fierté et du narcissisme. L'imam Ali, béni soit-il, a également dit « Mais Dieu, le glorifié, éprouve ses créatures avec diverses difficultés, les incite à l'adorer à travers leurs luttes, les teste dans les détresses variées, tout cela afin d'extirper l'orgueil de leur cœur, d'installer l'humilité dans leur esprit, et de faire de tout cela une porte ouverte pour ses faveurs et un moyen facile pour son pardon.
Thank you.